Devine qui vient dîner. Michel Durand-Vallon.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, jeudi, théâtre et musique. Et nous passerons cette heure dans des contrastes allant du plus horrible, du plus effroyable au plus tendre. En croisant la tristesse, l'impuissance, bref, nous serons dans l'expression la plus simple du sens tragique des vies humaines. Mais après tout, c'est bien le propos, me semble-t-il, du théâtre. Et avec nous, pour ces états d'âme et d'homme, Pascal Rinaldi et son 10e album. Le disque a déjà une année, mais si on n'adhère pas à l'hyperconsommation, ça en fait malgré tout un objet tout neuf. Bonsoir Pascal Rinaldi.
Bonsoir, bonsoir.
Avec nous également Anne-Cécile Moser, metteuse en scène. J'ai vu que c'était marqué partout metteuse en scène, alors je m'y fais, non? Metteur
oui,
en scène
oui. Bon, je sais pas, un peu plus,
mais vous dites aussi metteuse en scène quand
non,
vous répondez
moi, je dis
au...
metteur en scène.
Alors vous êtes metteur en scène.
Bah,
donc
c'est ça pas l'importance.
Comédienne aussi, ça on peut dire?
Oui.
Pas comédien?
Non, comédienne.
Comédienne aussi parfois, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Qui met donc en scène deux textes de Domenico Carli, Ciao Papa et Ave Maria. Enfin, nous recevons Guillaume Béguin et Sylvie Kléber pour une pièce. J'ai pas cité Claude Ruet, Guerre, qui est aussi avec nous.
Bonsoir.
Voilà, et qui s'est occupé des costumes sur ces deux pièces de Domenico Carli. Puis nous recevons, disais-je, Guillaume Béguin et Sylvie Kléber pour une pièce terrifiante. Je ne l'ai pas vue, évidemment, mais si j'en crois à la fois le dossier de presse et les articles qui ont paru suite aux premières représentations. Pièce terrifiante de l'auteur suédois Magnus Dahlström, L'épreuve du feu. Bonsoir, Guillaume
Bonsoir.
Béguin. Bonsoir, Sylvie Kléber.
Bonsoir.
En travaillant sur cette émission, en la préparant, alors évidemment le Danemark n'est pas la Norvège, mais je ne pouvais m'empêcher de penser aux regards, aux mains, aux sourires, aux larmes même, de Anders Breivik, donc cet homme qui a tué 77 personnes de sang-froid, racontant là tout récemment comment il s'était préparé au carnage en regardant des jeux vidéo. Alors Anders Breivik n'est pas dans la pièce écrite en 1989 donc de Magnus Dahlström, mais il pourrait, selon vous, Guillaume Béguin, entretenir une parenté avec lui, les huit personnages de cette œuvre.
D'une certaine façon, oui. Alors, les personnages de l'épreuve du feu, en fait, ont commis tous des crimes, mais c'est des crimes qui sont plutôt des crimes domestiques, donc c'est-à-dire à l'égard de leur conjoint, de leur enfant, ou comme ça, ou d'un enfant,
ou d'un voisin.
Enfin, voilà. Oui. Donc, c'est pas, disons que, mais évidemment qu'on est un peu, disons, disons que la question que pose à la fois ce tueur dont j'ai oublié le nom là, mais.
Anders Breivik,
voilà, venez d'en parler. Et puis les personnages de l'épreuve du feu, en fait, c'est la question de l'humanité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que être un être humain, est-ce qu'on est humain ou est-ce que l'humanité c'est quelque chose de construit, du coup, de culturel, est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut se perdre. Donc on voit bien qu'Anders Breivik, lui, a perdu son humanité.
Alors on va en parler justement. On va en parler parce que l'a-t-il véritablement perdu? C'est effectivement la question qui se pose face à ces huit personnages. Donc globalement, il y a un lieu. Et Sylvie Kléber, vous nous direz comment vous l'avez conçu. Chaque fois, je confonds. Claude Reger qui est en face de moi et Sylvie Kléber qui est à ma gauche. Donc, un lieu, huit personnages, quatre hommes, quatre femmes, qui au début ne se regardent pas, ne se parlent pas, vraisemblablement ne se connaissent pas. Un lieu, Guillaume Béguin, sans définition, c'est impossible de dire si c'est une pièce, si c'est une salle d'attente, si c'est un lieu réel, imaginaire. Ça pourrait être un purgatoire, une antichambre de l'enfer, un salon, enfin... Non, rien, c'est juste un lieu non identifiable.
Ça pourrait être aussi le cerveau de l'auteur ou le cerveau de quelqu'un, ou mon cerveau à moi, ou le cerveau du spectateur.
Qui invente, qui imagine.
Voilà, ouais, qui va chercher justement l'endroit où il pourrait disparaître en tant qu'être humain.
Je n'ai pas vu la pièce, mais on aurait presque préféré que ces gens continuent à ne pas se parler, puisque au moment où ils le font, c'est-à-dire au moment où ils commencent à se raconter, on entre très rapidement dans l'intolérable, dans l'inacceptable.
Oui.
Dans du crime pur, brutal, d'une violence inouïe, extrême.
Ouais. Alors, c'est vrai. En fait, c'est vrai que l'auteur est assez malin parce que, justement, comme vous l'avez dit, il définit pas l'espace. Et nous, avec Sylvie Clabert, justement, on parlera peut-être après l'espace, mais on a vraiment fait en sorte que cet espace soit un espace de théâtre, c'est-à-dire un lieu de représentation, un lieu où on va inventer. L'auteur, je disais, donc, il ne définit pas l'espace, ce qui fait qu'en fait, chacun de ces personnages, on peut pas expliquer pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi il est devenu horrible,
Il ne le dit pas d'ailleurs.
Il ne le dit pas.
À aucun moment, il n'explique.
On peut pas expliquer, c'est parce qu'il s'est suicidé, ou parce que son enfant, ou son père s'est suicidé, il a été traumatisé, j'en sais rien, n'importe quelle raison psychologique qu'on pourrait inventer. Tout ça, c'est complètement évacué par l'écriture, et aussi par la mise en scène, et puis le travail sur l'espace, parce que, justement, c'est comme ça qu'il me semble qu'on peut plus s'interroger, nous, comme spectateurs, on peut plus, d'une certaine façon, s'identifier à un petit moment. Cette chose peut nous, c'est cette chose monstrueuse qui est en face de nous, peut nous interroger, on peut la regarder, on peut se comparer à elle, et à un moment donné, on va aussi la rejeter, parce que, bon, moi, j'ai tué personne, j'ai pas l'intention de commettre des crimes, en tout cas pas la semaine prochaine, et puis j'ai l'impression d'être moi-même défini, enfin si je devais faire mon portrait, par exemple, je pense que je dirais justement que je suis quelqu'un... Qui essaye de toujours privilégier le dialogue avant de me battre,
qui respecte les autres,
qui aide les pauvres, ouais. Qui donne de l'argent aux bonnes heures, enfin voilà. Non, mais c'est comme ça que j'aurais envie de me définir. Mmh. Et en fait, cette pièce, elle montre que, ben, bien sûr, on peut se définir comme ça, mais à un moment donné, quand cette chose-là disparaît, qui on est? Qu'est-ce qui reste, en fait? Mmh. Et on se rend compte qu'en fait, il reste quand même quelque chose qui n'est pas un inhumain, justement, mmh. qui est aussi un humain. Et, oui. voilà. Et qui est-il? Et comment, jusqu'à quel point je peux, moi, accepter de me comparer à lui, de m'identifier à lui? C'est la question que pose cette pièce.
Mais vous avez prononcé le terme de monstre, de monstrueux. Tous ces personnages ont donc commis des crimes atroces, mais pas des crimes inimaginables.
Non, pas du tout. C'est des crimes assez banals. Hein.
C'est assez banal.
Il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, on les voit partout.
On les voit partout. Enfin, des infanticides, enfin, toutes sortes de choses abominables, viols, incendies, bon, bref. C'est pas inimaginable, c'est ce qui fait que effectivement ces crimes atroces sont en nous, c'est puisqu'on est capable de les inventer, ces crimes, sinon de les perpétrer. Et on entend souvent parler, Breivik par exemple en est un exemple, de crimes monstrueux. Vous pensez qu'il y aurait d'une part des humains et d'autre part des monstres?
Bah, je pense que ce sont les mêmes. Alors après, peu importe comment on les appelle, on est des fois... Moi-même, je me suis aussi trouvé des fois monstrueux.
Mm-hmm. Donc, l'expression.
Je pense pas qu'il y a d'un côté les uns, d'un côté les autres.
C'est aussi l'expression de l'humanité que l'atroce.
Oui, tout à fait. C'est bien ça qui est extrêmement dérangeant. Parce que c'est beaucoup plus facile de mettre les gens dans des cases et justement de dire, ben voilà, c'est un monstre. Et puis, du coup, la pièce de Dahlström, pour ça, elle est assez maligne. Parce que justement, c'est des crimes qui sont extrêmement banals. Donc, du coup, c'est aussi des crimes, parce qu'on est tous aussi potentiellement des sadiques. On a tous des pulsions sadiques, plus ou moins réprimées, qui s'expriment plus ou moins dans notre sexualité ou dans des jeux ou je sais pas quoi. On a tous ça aussi en nous. Potentiellement. Donc, c'est ça, la pièce Titi aussi nous attaque aussi, elle nous va un petit peu nous grailler à cet endroit-là, si je puis dire.
Alors, on l'a dit, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas évidemment pourquoi ils sont là, tous réunis. Toutes sortes d'hypothèses sont possibles et vous en faites une liste dans le dossier de presse. Hein. Ça pourrait, peu importe, ça pourrait être une psychothérapie, ça pourrait être l'intérieur de la tête de l'auteur ou de n'importe qui. Mais, et vous auriez pu en retenir une. C'est-à-dire, faire le choix de dire, bah, je vais décider qu'ils sont dans tel lieu.
Oui, mais ça aurait vraiment réduit le sens.
Non, il
si
faut
on
pas
s'était
le
dit,
il faut
c'est une psychothérapie de groupe, un accord, puis alors après tout. Dès qu'on reconnaît trop quelque chose, enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue au théâtre, même dans l'art en général, dès qu'on reconnaît trop quelque chose, on cesse de s'y intéresser, on cesse de se questionner. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéresse dans le théâtre, c'est d'être bouleversé. Enfin, c'est la seule chose qui m'intéresse au théâtre, c'est d'être dérangé, mm-hmm. c'est d'être heurté, c'est de casser des choses en moi, d'être changé, quoi, d'être bougé. Mmh. Et si dès qu'on reconnaît la chose et qu'on reconnaît un purgatoire ou une séance de psychothérapie ou je sais pas quoi, et ben du coup ben on reconnaît et puis on se dit ah ben c'est comme à la télé, quoi.
Sylvie Clébert, donc vous êtes scénographe, architecte de formation. Vous dites travailler les lieux théâtraux dans leur globalité. Et ce qui m'a plus intéressée encore, c'est vous dites que vous tentez de travailler sur le questionnement du rapport scène-salle. Comment imaginer un écrin à l'horreur et comment mettre suffisamment, je ne sais pas si c'est de la distance ou quelque chose qui fasse que ça reste tolérable, acceptable, disons, pour un spectateur, en l'occurrence entre spectateur et personnage dans ce cadre-là. Comment vous avez conçu la chose ?
Alors avec Guillaume, comme il l'a dit tout à l'heure, on est parti de cette communauté, de ces 8 personnes qui sont... Enfin, on ne sait effectivement pas quels sont les rapports entre eux. Et ces 8 personnes, 4 hommes, 4 femmes, sont là pour témoigner d'horreurs qu'ils ont commises, mais qui ne sont effectivement pas si loin de nous. Et après avoir réfléchi sur plusieurs hypothèses d'espace... où la salle, justement, serait détachée de la scène et où on aurait face à nous des gens dans une autre situation. Ce qui est dit dans le texte, c'est un lieu clos. On parle d'une chambre avec une porte fermée. On a au contraire fait un lieu qui est plus un dispositif, qui n'est pas vraiment un décor, dans lequel les spectateurs sont mêlés, finalement, à ces gens. Donc il n'y a pas du tout de distance, au contraire. Et bizarrement, le fait qu'ils soient tous autour, c'est-à-dire que pour un spectateur, les autres spectateurs sont une sorte de décor. Enfin, c'est beaucoup plus un espace de parole ou d'écoute.
C'est un espace circulaire. Donc
oui, c'est ça qu'il faut dire.
Il y a des gradins tout autour et puis les acteurs sont au centre, comme dans une espèce d'arène.
Oui, et les spectateurs sont sur les gradins.
Oui. Voilà, c'est 5 petits gradins et qui convergent vers un centre assez... un espace assez petit, en fait, vers lesquels les acteurs pénètrent dans ce centre et en ressortent. Ça veut dire qu'ils passent vraiment très près des spectateurs. Mais bizarrement, ça n'est pas si confrontant que ça. Et ça permet justement d'être dans un rapport d'écoute plutôt privilégié.
On y réfléchit. Comment on réfléchit d'ailleurs à ce genre de problématique entre metteur en scène et scénographe? C'est-à-dire, quelle est la relation, quel est le rapport?
En fait, avec Sylvie, on est parti vraiment d'une espèce d'intuition que Sylvie a eue au début. Parce qu'il y a des fois des scénographes qui travaillent tout seuls ou qui font leur scène dans leur coin. Puis après, ils donnent des plans. Puis le metteur en scène, il dit « Bon, moi, je vais faire comme ça. Je mets l'acteur qui entre à gauche, qui sort à droite, etc. » Et là, avec Sylvie, on ne fait pas comme ça. Nous, on part de aucune idée préconçue. On se réunit, on discute. On a fait quelques lectures avec les acteurs. Puis Sylvie, elle disait, après ces quelques lectures, elle disait « Il faut qu'en fait, qu'on puisse à la fois être très très près et très très loin. Donc on est parti par exemple de ce concept-là et on a commencé à construire à partir de ça. Comment est-ce que c'est possible d'être en tant que spectateur et d'être très très près de l'acteur et en même temps pouvoir faire un espèce de zoom arrière à des moments parce qu'on doit pouvoir aussi se réfugier si la chose nous atteint trop et aussi on doit pouvoir aussi s'extraire un tout petit peu pour réfléchir un peu à ce qui se passe aussi puis et après à pouvoir revenir aussi dans l'action. Il y a ces deux temps qui soient vraiment possibles.
Et puis c'est peut-être lié à un lieu aussi. Vous avez commencé au Temple allemand, à la Chaux-de-Fonds. Oui. Est-ce que c'est possible dans tous les lieux de se dire, tiens, voilà, cette disposition circulaire, en gradin, avec les comédiens au centre?
Alors c'est très différent d'un lieu à l'autre et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est quand même vraiment un dispositif qui est complètement in situ, enfin qui est lié aux espaces dans lesquels on se pose. Et effectivement, on n'a pas du tout masqué les lieux dans lesquels on est. On fait avec et ils résonnent très différemment. Et même le texte prend des autres dimensions d'avoir été dans le temple allemand où c'est un lieu qui est en même temps assez beaucoup plus connoté, plus chargé, assez étrange, mais assez fort. Et de se retrouver dans un espace blanc où
comme le Grütli,
où l'espace est beaucoup plus exposé d'une façon. On a un tout autre rapport et c'est assez intéressant de voir les différentes versions.
Et puis entre le Grütli et l'Arsenic, encore un gros contraste Donc il faut adapter tout ça et se débrouiller pour faire que la même impression reste.
Alors la même impression ne va pas rester, mais c'est presque un autre spectacle en fait, entre le Temple allemand et le Grütli pour le moment. Alors après évidemment, c'est quand même le même spectacle parce qu'ils disent les mêmes mots, mais on le reçoit vraiment complètement différemment. Moi je ne sais pas, je n'ai pas encore assez de recul pour savoir laquelle version je trouve la plus intéressante.
Et pour les acteurs c'est très différent aussi,
ouais.
Bien
oui,
sûr.
Oui, au niveau du jeu. Ouais.
Voilà, d'autant que pour les acteurs, il semblerait que ce n'est pas été si simple, ni pour vous d'ailleurs. Donc le titre de la pièce c'est l'épreuve du feu, c'est une véritable épreuve. pour les comédiens aussi, qu'ils ont dû, comédiens et comédiennes, qu'ils ont dû traverser. Une de vos comédiennes disait qu'elle n'arrivait pas à prendre son texte.
C'est vrai que voilà.
Ça refusait d'entrer.
Il y a quelque chose qui. C'est vrai que le cerveau humain est fait de telle façon qu'il y a un moment donné, on a plus envie d'imaginer en fait.
Et on préfère refuser.
Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai. Donc, pour apprendre un texte, il faut se le représenter dans sa tête. Et puis, elle n'avait pas envie de se représenter les choses dont elle parlait. Donc, c'est vrai qu'elle n'arrivait pas, quoi. Après, évidemment, elle a réussi. Puis maintenant, elle est vraiment excellente dans le spectacle. Mais c'est vrai que c'est une difficulté. Moi aussi, je me suis rendu compte que les moments qui me touchaient le plus, qui me heurtaient le plus dans le spectacle, en répétition, des fois, j'écoutais bien sûr, mais par exemple j'arrêtais de prendre des notes, je restais comme ça, puis j'attendais que ça passe, quoi. Mais en même temps, c'est hyper intéressant, je trouve. Moi aussi, en tant que spectateur, c'est vrai que là, je suis spectateur de ce spectacle maintenant, puisqu'il est plus ou moins fini. Et c'est vrai qu'il y a des moments, des soirs, j'ai pas envie d'y aller, en fait. J'ai pas envie d'aller au théâtre.
Pas envie d'aller entendre ça.
Mais après, j'y vais encore à chaque fois.
Pensez au spectateur. N'y allez pas, c'est atroce.
Mais c'est un spectacle qui bouleverse, quoi, automatiquement.
Parce que, voilà, vous l'avez déjà joué donc au Temple Allemand, dont le directeur, d'ailleurs, avait choisi d'en interdire l'entrée aux moins de 16 ans, ce qui est exceptionnel.
C'est très rare au théâtre, mais c'est vrai que en dessous de 16 ans, je pense que c'est pas forcément très utile qu'on soit confronté à ça. C'est pour ça qu'il l'a fait.
Comment réagissent les spectateurs?
Alors, les spectateurs sont en général extrêmement démolis à la fin. Non, c'est pas vrai.
Vous allez faire le plein, vous. C'est clair.
C'est une charge qu'on reçoit, mais c'est aussi quelque chose qu'on a voulu digeste. Donc, mon but n'est pas de taper sur la tête des gens et qu'ils en sortent complètement démolis.
Une espèce de voyeurisme aussi, ce qui aurait pu être possible.
Exactement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en même temps assez souple. On est à l'écoute aussi de ce qui se passe. Il y a ces 8 acteurs qui sont tous très très forts et très, je trouve, vraiment excellents. Je suis extrêmement satisfait de ma distribution.
Très fier.
Très fier d'eux, ouais. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui circule. Enfin, il y a à l'intérieur de la représentation, il y a aussi des moments donnés beaucoup plus drôles, il y a quelque chose d'organique qui se passe. Ça circule. On a des moments donnés où on peut un tout petit peu se lâcher pour retourner après plus profondément encore dans l'horreur.
Bien sûr.
Donc c'est un... Non, mais très sérieusement, je crois qu'on ressort de ce spectacle, les gens qui viennent me parler après, on ressort vraiment enrichi de quelque chose, d'une expérience. Mmh. Et je pense que vraiment le théâtre, c'est quand même un des seuls arts aujourd'hui qui permet ça, qui permet justement d'être ébranlé vraiment concrètement.
Oui, d'autant que la violence crue, la violence pure, brute, est assez peu représentée au théâtre, alors qu'on y est considérablement habitué par le cinéma ou par la télévision. Mmh. Mais au théâtre, pourquoi ? C'est parce que le théâtre, c'est de la vraie chair face à des spectateurs qui sont de vraie chair.
C'est vrai que le cinéma s'est beaucoup emparé de ça, de la violence. Je pense à Haneke, par exemple. Enfin, il y en a plein, quoi. Au théâtre, c'est beaucoup plus compliqué parce que, déjà, toute la question de la représentation de la violence est évidemment beaucoup plus complexe au théâtre qu'au cinéma où on peut faire des effets spéciaux. Les effets spéciaux au théâtre, ça rate, c'est jamais très intéressant. Puis la violence psychologique, c'est difficile. Je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a quand même quelques grands auteurs de la fin du XXe siècle, du début du XXIe, qui sont confrontés à ça. Sarah Kane, notamment, Edward Bond. C'est peut-être plutôt des Anglais.
Comment vous étiez tombé sur cette pièce, d'ailleurs?
En fait, il se trouve que c'est le même traducteur que Jon Foss. La première mise en scène que j'ai faite, c'était un texte de Jon Foss. Puis par curiosité, j'ai lu aussi les autres textes qu'il avait traduits. Je suis tombé comme ça. C'est une pièce qui a été traduite il y a une dizaine d'années.
Et pourquoi elle vous a séduite?
Vous dites
j'ai froid, ça me fait froid.
Oui, c'est ça.
Ça me donne froid.
Elle me fait froid dans le dos, c'est cette pièce. Et d'une certaine façon, je suis content d'avoir encore froid dans le dos. Parce qu'il y a il y en a d'autres.
Ça veut dire qu'entre vous et les personnages, il y a encore une marge.
Voilà, exactement. C'est vrai que je pense que tout être humain, à un moment donné dans sa vie, a besoin ou a envie de se confronter à ça, à une forme de limite. Moi, j'ai la chance de pouvoir le vivre à travers quelque chose de fictionnel. J'ai pas besoin de me détruire pour de vrai. Voilà.
En parlant de limites, donc face à cette violence au théâtre, il y a des précautions à prendre pour ne pas pour surtout ne pas outrepasser une limite à la fois un peu invisible, fragile. Quel genre de précautions on prend face à la violence au théâtre ?
Bah, moi, je pense que c'est beaucoup une question d'écoute de soi-même et d'écoute aussi de l'acteur. Parce que quand on travaille justement avec les acteurs, on parlait avant de la difficulté de certains qu'ils ont eu là pour apprendre leur texte. Je pense que voilà, ça part vraiment de ça. Cette pièce, si elle est intéressante, c'est aussi à cause de ça. Parce qu'on voit 8 êtres humains d'une certaine façon. On voit ces 8 acteurs sur le plateau qui sont justement pas des monstres. On voit bien que c'est des êtres humains qui, d'une certaine façon, jouent à être des monstres ou s'interrogent. On voit toujours les deux couches. On voit la couche de l'acteur et la couche du
personnage.
Mais oui, du personnage. Donc du coup, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. C'est en essayant de respecter toujours. On peut pas violer les gens, ni les spectateurs, ni les acteurs, ni soi-même. On est obligé d'aller... On doit accompagner dans un endroit la personne et s'accompagner soi-même dans un endroit à une forme de limite. Mais on peut pas se forcer à y aller. Et c'est aussi comme ça que j'ai voulu traiter le rapport aux spectateurs. Qu'on les amène à...
L'épreuve du feu, donc, de Magnus Dahlström, mise en scène par vous, Guillaume Béguin, scénographié par vous, Sylvie Kléber, c'est au Grütli jusqu'au 21 avril, et puis à l'Arsenic à Lausanne. Enfin, c'est pas à l'Arsenic même, d'ailleurs.
C'est hein. la Maison Blanche.
Voilà, c'est à la Maison Blanche. Du 27 avril au 6 mai. Je sais pas, vous avez une petite phrase, après tout ce qu'on vient de dire, pour prévenir les spectateurs que c'est pas du boulevard, enfin qu'on n'est pas dans le registre du divertissement familial, donc.
En effet, oui, c'est pas du divertissement familial.
C'est vrai ?
Oui.
Vous dites ça ? Quelque
part ? Ah, vous
part.
Dites avant...
Non,
avant,
vous avez une petite phrase ?
Non, j'ai pas
non,
de spécialement de petites phrases, j'ai que des grandes phrases.
Pardon, excusez-moi.
Non,
vous avez
pas.
Une grande phrase pour
non, je pense à rien de particulier là non. pour le moment. Non, non.
Bon, désolé. Très bien. En tout cas, je sais pas, on laisse les auditeurs éventuellement se confronter à cette épreuve du feu, passer leur propre épreuve du feu et réfléchir à leur propre humanité. Merci Guillaume Béguin. On va vous laisser aller parce que vous jouez en ce moment d'ailleurs, parce que l'émission est diffusée là, au moment où on parle. Non, il est 17h15 en vrai, dans notre vraie vie à nous, mais en fait, les auditeurs sont en train de nous écouter pendant que vous êtes en train de jouer. Il doit être quelque chose comme 20h27, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe à 20h27 ?
À 20h27, je pense qu'il y a Fred, l'acteur Fred Jaco Guillermo, qui commence à taper sur sa femme.
D'accord, c'est point. Parfait. On va écouter un peu de... Enfin, de la vraie douceur, du vrai... C'est la voix de Mélodie Gardeau. Mira, cet extrait de son tout récent album à paraître fin mai 2012, Absence.
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us two. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. Look at what you do to me.
Mira, che tal fantasia. Mira, this is such a lovely way to be something. Cada día que creo pasar, te recuerdo, habrá un momento de encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de sentirte en mis brazos, recreando los momentos pasados en tu cuarto.
C'était Mélodie Gardot, Mira, extrait de son dernier album à paraître fin mai. Anne-Cécile Moser, vous dont tous les articles de presse relèvent l'aptitude au rêve, est-ce qu'une pièce de cette nature-là, donc l'épreuve du feu, entrerait dans votre univers ou pas du tout ?
Je ne connais pas cette pièce. Je peut-être, mais je pense qu'en effet, j'en tirerais les personnages comme en effet une projection de ce que pourrait inventer un. Je pense que j'irais par des chemins de traverse.
Pas un gramme de réel.
Non.
Vous
je crois pas. C'est un peu à chaud.
Oui, oui.
Hein. Non, je pense pas.
Ça dit, l'argument des deux pièces de Domenico Carli est sombre, triste, déchirant, un peu désespérant. Comment vous avez fait la rencontre à la fois des textes et de l'auteur ? Parce que j'imagine que vous avez forcément travaillé un peu avec Domenico Carli, non ?
Non, c'est des textes qu'il a écrits,
oui, ça, oui.
Qu'il
n'a
pas écrit pour la compagnie, mm-hmm. ni pour ce spectacle. C'est des textes qu'il a écrits, entre guillemets, seul, dans sa petite chambre.
Oui. Réfléchissant à son Italie natale.
Non, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, dans ces deux textes, c'est... moi, j'ai rarement travaillé des textes réalistes, en effet, vraiment avec une trame très simple, entre guillemets. Avec un langage aussi, une langue qui est tout de suite accessible, où les situations, où la théâtralité se joue vraiment dans les situations, les non-dits, les silences, les rapports, et pas uniquement dans la langue. Donc, il ne s'agit pas de dire que Domenico n'a pas une langue, mais il a surtout des situations, une histoire, un contenu, une histoire à transmettre. Plus qu'une langue, à mon avis. Et moi, c'est ce qui me touchait, ce qui m'intéressait de travailler avec les acteurs. Après, je ne trouve pas nécessairement que le propos soit super pessimiste. C'est finalement la grande histoire confrontée à la petite histoire de chacun. C'est vrai qu'en Italie, il y a ce problème de mafia qui est très, très fort. Et puis comment finalement cette organisation tentaculaire contamine la petite histoire de chacun, l'air de rien. Enfin, pas l'air de rien.
Pas l'air de rien, oui.
Mais je veux dire, il y a un friat dans toutes les familles. Ça peut être aussi les disparus en Argentine, etc. Toutes les familles, il y a un drame, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais en même temps, il a une écriture extrêmement tendre, il y a beaucoup d'amour, et il y a des personnages qui rentrent en contact, qui sont en lien, et de les voir dans cette humanité, moi ça me réchauffe. Parce qu'ils sont dans l'humanité.
Ouais. Ciao voilà. Papa et Ave Maria, donc deux histoires, presque deux nouvelles d'ailleurs. Ça pourrait faire de la nouvelle, des nouvelles qui partent de faits réels et qui explorent d'une part l'Italie contemporaine et ses terribles dérives, donc par ailleurs mafieuses, mais pas seulement, mais aussi les rapports entre une fille et son père pour Ciao Papa, et puis entre une fille et sa mère pour Ave Maria. Ciao Papa, l'histoire se déroule dans un train.
Oui, parce qu'il y a quelque chose que moi j'adore dans l'écriture de Domé, c'est qu'elle est profondément cinématographique.
C'est ça.
Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est une écriture tout de suite, c'est triste, c'est tragique. C'est qu'en fait, on a une fable, entre guillemets, relativement simple, et après c'est toutes les portes d'entrée qui permet. Donc finalement, on a en effet une jeune femme qui rencontre un homme dans un train qui s'avère être un acteur qui a joué le rôle de son père.
Père tué, évidemment.
Par la mafia.
Par la mafia.
Finalement, voilà, l'histoire, elle est complexe et pas en même temps. Mais avec ça, tout à coup, on a le rapport père-fille, le rapport amoureux. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui rencontre un homme dans ce contexte d'un père qui lui a manqué ? Finalement, comme dans un bon film, tout à coup, vous êtes là... le spectateur fait un espèce de voyage dans son émotion, dans son histoire, à travers ce qu'on lui raconte. Mais finalement, il peut tirer de multiples écheveaux, de multiples fils, et tac, ah, je rebondis là. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs chez les spectateurs. C'est que finalement, les gens commencent à vous parler d'eux-mêmes, à dire, mais moi, je me rappelle mon père, moi, c'est l'Italie, mais moi, mon histoire, j'ai pas vécu ça, mais ça me... Finalement, ça les fait rebondir sur leur propre histoire. Et d'une chose qui parle de la mafia, en fait, c'est totalement universel. C'est qu'il prend finalement comme base, en effet, comme terreau, ce contexte, cette grande histoire, mais c'est la petite histoire de chacun qui ressort le plus fort. Mmh. Et c'est cette rencontre des deux qui est très dynamique sur le plateau et qui permet au spectateur de rentrer à l'intérieur avec son émotion, avec ses pleurs, ses rires. Il y a beaucoup de portes d'accès. C'est vraiment pas fermé.
Vous l'avez dit, dans l'écriture de Domenico Carli, il y a du cinéma, c'est-à-dire, enfin, dans ce théâtre-là, donc il y a du cinéma, du passé, du présent,
oui,
des flashbacks.
Il joue avec les plans comme ça, j'adore ça. Parce que c'est aussi ces deux objets, quand vous dites que l'univers de la compagnie est assez onirique, c'est vrai, moi j'aime bien les espaces-temps qui sont bouleversés, en fait, la linéarité et le rapport réaliste.
C'est assez. Quand j'ai lu la première fois, j'ai été Akmozersi. Qu'est-ce que c'est, là, Akmozersi? Non, c'est assez Moser compagnie. Donc, Moser-ci.
Mais c'est vrai qu'il joue avec les temporalités. Ouais. Et puis après, il y a.
Ouais. Et alors, comment et on transporte le cinéma au théâtre? D'abord, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible?
Alors, moi, c'est ce qui. Moi, je suis assez visuelle en règle générale. Hein. J'avoue que les objets, j'aime l'image. J'aime l'image au théâtre. Et ce qui m'a intéressée dans cet objet, c'est de travailler dans des petites salles et dans ce rapport scène-salle. Ce rapport de proximité avec le public. Après, c'est comment, en effet, je trouve que l'écriture est vraiment éminemment cinématographique, plan, grand plan, etc. C'est comment amener tout à coup la concentration du spectateur sur un détail, sur une expression, et puis finalement fracturer la narration perpétuellement pour qu'il l'entende différemment et pas nécessairement dans sa continuité. Mais il s'en rend pas compte. Comme dans un bon film, on se rend pas compte que les plans passent.
On voit pas les coutures.
Non, on voit pas les plans.
Non, non, surtout pas.
Bah non, sinon...
Et là, on voit pas non plus. On
je
voit pas les fils.
Je crois pas. Certains doivent les voir, mais d'autres les voient pas. En tout cas, la majorité les voit pas.
En parlant de couture, tiens, Claude Rueger, de couture, là. Vous êtes costumière sur ce spectacle. Je veux dire que le costume au théâtre reste une énigme pour moi. Parce que dans le meilleur des cas, alors évidemment, encore une fois, quand on voit pas la couture, le comédien y apparaît parfaitement naturel et cohérent. Et pourtant, si on transposait ce comédien assez brutalement comme ça de la scène dans la rue, son vêtement n'aurait plus aucun sens. C'est-à-dire, comment on choisit un costume et pourquoi il y a ce mystère? Pourquoi il y a ce décalage qu'on ne constate pas sur la scène du théâtre et qui est criant dans la rue?
Alors ça, je sais.
Vous n'avez pas la réponse,
non,
me disiez-vous.
Non, j'ai pas la réponse. Ça reste un mystère.
Ça reste aussi pour vous un mystère.
Non, mais je pense qu'après, c'est peut-être une question d'attention, en fait. D'attention au costume. Parce que c'est vrai qu'il y a des costumes, il y a des univers très visuels qui demandent des costumes qu'évidemment vous verriez, enfin, qu'on ne peut pas transposer dans la
réalité.
Rue, voilà. Et puis, il y a des univers qui demandent des costumes, entre guillemets, beaucoup plus contemporains et simples et basiques. Et...
Ce qui est le cas là, par exemple.
Ouais,
là, on est dans une époque contemporaine.
Oui, on est aujourd'hui.
En Italie, un comédien, une jeune femme, probablement plutôt bourgeoise, une maman, une mère, dans Ave Maria, hein, une mère probablement d'un milieu assez simple. Donc voilà, on a quelques données de base. Comment on fait à partir de là? Dans l'infinité du choix possible.
Alors, encore une fois, j'ai pas la réponse. Moi... C'est vrai qu'en plus, ça m'est toujours difficile de parler du costume parce que j'ai l'impression que c'est une intuition. Enfin, moi, je fonctionne un peu à l'intuition, donc je ne sais pas vraiment expliquer. Après, je pense vraiment que c'est une histoire d'attention au costume. C'est-à-dire que c'est le petit détail qui est invisible mais qui fait la différence.
Comme, par exemple, quel est ce petit détail? Je ne sais pas, c'est la culotte ou de la comédienne?
Oui, mais la hauteur de la jupe, le poignet qui fait 11, le poignet de la blouse de Chine qui fait 11 cm, alors qu'un poignet normal, il en fait peut-être 8 maximum. Enfin, j'ai l'impression que c'est des petites choses qui nous paraissent effectivement, quand on les voit dans le contexte, très simples et très banales. Et qu'effectivement, si vous les déplacez dans la réalité, il y a un petit décalage.
Mais qui fabrique un caractère.
Oui. Oui. Et puis, je pense que c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment. Enfin, moi, j'aime bien ce mot d'attention parce que je ne sais pas l'expliquer autrement. Mm-hmm. C'est vraiment. Mais vraiment, c'est peut-être des histoires d'auteurs d'ourlets, de.
Oui, de vraiment, rien, de détails.
De rien. Et de choses qui paraissent vraiment.
Mais on donne. Enfin, moi, je ne pourrais pas. Claude, c'est vraiment une collaboratrice. Hein. C'est plus qu'une costumière dans le projet de la compagnie. Mais moi, je ne pourrais pas envisager un spectacle sans costume. C'est impossible.
Ah oui, vous n'iriez pas acheter dans je ne sais quel magasin.
Ah, mais si
un
on
truc
achète
en disant,
ah, mais c'est un objet très précis. Si on va acheter, il est précis. On va le retravailler. On donne à voir tout détail. Tout ce qu'on donne à voir, on doit le...
Tout l'univers est construit.
Tout est là-dedans. Oui. Et l'univers du personnage, il est dans ses 11 centimètres. Moi, je trouve que c'est ça qui me passionne dans le métier de Claude et d'ailleurs dans tous les artisans qui accompagnent l'objet, comme le scénographe, celui qui fait la musique. C'est tous ces détails qui créent tout à coup une image dans le spectateur dans lequel il peut plonger et dans lequel, émotionnellement, il fait un voyage. Mm-hmm. Mais le costume, tout, les chaussures, la couleur, la coupe de cheveux.
Si un fauteuil, c'est le fauteuil. Si un vase, c'est un vase.
C'est pas possible etc. de ne pas y mettre du soin, à mon sens, là-dedans. Mm-hmm. Parce qu'on donne à voir. Si dans une scène, il n'y a rien à voir, alors...
Donc tout a un sens.
Tout a un sens. Mm-hmm. Et Claude met beaucoup de sens sur tout ce qu'elle fait, les traits très fines. Le petit chemisier transparent de Chine Iglesias et Marco Facchino sont les deux acteurs dans Ciao Papa. Qui donne avec la lumière, parce qu'il faut travailler avec la lumière après. Si vous travaillez avec de la soie, avec de la crêpe, je ne sais pas quoi.
Crêpe de Chine.
Crêpe de Chine, elle est dans la transparence, elle prend l'éclairage de Jean-Marie Bossart, tac, et vous voyez juste sa taille qui est légèrement dessinée, parce que c'est la taille de Chine. Parce que sur une autre comédie, on aurait mis autre chose. Mm-hmm. Mais avec la taille de Chine, ce tissu-là, tac, on la voit un petit peu en transparence. Et il y a une émotion avec cette taille. C'est la taille de cet enfant, de cette femme qui n'a pas grandi. Et après, le spectateur, il a des outils pour rêver un peu plus, pour alimenter son rêve, alimenter son histoire, alimenter sa fiction. C'est important, le costume.
À quelles exigences techniques doit répondre un costume théâtral, d'ailleurs? Il y en a?
Oui, alors, il y a des exigences techniques... très simple, hein. ça doit être solide, ça doit pouvoir se laver.
Oui, non, mais enfin, comme tous les vêtements, non?
Ah oui, mais quand même. Simplement, bêtement, la lessive, vous l'avez, enfin, voilà, tous les soirs, il faut laver certaines choses, donc ça doit. C'est vrai qu'il y a des choses très concrètes, les coutures doivent être solides.
Oui, ça doit pas marquer sous les aisselles ou des trucs comme ça, parce qu'effectivement, transpiration, chaleur, maquillage.
Oui, puis sérieusement, quand vous lavez 80 fois une blouse, il faut qu'à la 81e représentation, on ait l'impression que c'est la première fois qu'elle est neuve. Ou en tout cas, qu'elle réponde à ça. Ouais.
Qu'elle est dans l'état dans lequel on souhaite qu'elle soit, en somme. Et que deviennent ces costumes, Craig, pour une occasion spécifique, par exemple?
Alors après,
va devenir la blouse avec ses 11 cm de poignet?
Et après, tous les costumes appartiennent aux compagnies, en fait. Moi, je n'ai pas de stock.
Vous ne gardez rien?
Non.
Et qu'en fait la compagnie, Anne-Cécile Moser?
La compagnie, parfois, les réutilise dans d'autres spectacles. C'est vrai qu'on a fait des choses avec... on a fait très peu de choses dans des univers réalistes avec Claude. Oui. On a beaucoup travaillé dans des univers...
l'occasion maintenant que vous avez du costume.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'elle a déjà vendu son manteau en cuir à de nombreuses spectatrices, parce que Chine a un très, très beau manteau en cuir. Ah oui,
que vous avez fait, donc, enfin, que vous avez conçu.
Oui, que j'ai cousu.
Mais c'est vrai que sinon, les corsets,
les gros jupons, c'est plus difficile. Voilà, les gros tutus, c'est plus difficile.
C'est quand vous voulez, pour les gros tutus. Ah,
mais sinon, c'est des... sans prétention, j'aimerais un jour les exposer parce que c'est super beau. Oui. Et puis le choix des textures, mais c'est vrai que c'est des objets qui sont pratiquement des objets artistiques. D'ailleurs, c'est là qu'on voit quand même la patte plasticienne de Claude, car elle est dessinatrice à la base. Hein. Mm-hmm. Donc elle a aussi un rapport au tissu, à la coupe, qui est
la manière dont ça doit tomber, couler,
qui est pas celui d'une couturière traditionnelle.
Ben, c'est un vrai bonheur.
Ouais. Ah. C'est un vrai bonheur. Quand on m'offre cette possibilité, que ce soit dans un univers plus onirique ou que ce soit dans le milieu de la danse, hein, je travaille aussi avec des compagnies de danse, mais le plaisir du beau toucher, du beau tomber, c'est vrai que c'est voilà, ça modèle, quoi. C'est...
Ciao papa et Ave Maria avec de beaux costumes. Surtout.
Oui.
Non.
Oui.
Oui.
Non,
encore une chose à rajouter.
Non, je voulais juste dire qu'Ave Maria est donc une lecture, hein, une lecture laboratoire. Ciao papa est vraiment monté. C'est un spectacle. Et l'idée d'Ave Maria, c'est de pouvoir le monter dans une année ou deux ans. Et donc là, c'est une lecture. Mais une lecture qui est quand même passablement mise en scène avec Michel Rossi, Séverine Hujard, Isabelle Tosic et Maureen Chiché.
Et puis vous avez commandé le troisième volet de ce qui sera finalement une trilogie de Domenico Carli sur ses chroniques adriatiques. C'est au Théâtre de l'Échandelle à Yverdon du 25 au 28 avril. Oui. Puis vous serez à Nuitony, à Villars-sur-Glâne du 3 au 6 mai. Mm-hmm. Et puis Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Tout est inscrit sur le site de l'émission rts.ch/devine. Et on écoute Pascal Rinaldi. On va l'écouter parler, mais on va d'abord l'écouter chanter, extrait de cet album paru l'année dernière. Oui, donc ce dernier et dixième album, Passer le Zénith. Mm-hmm. Et on a choisi, en l'occurrence, le titre éponyme. Ça fait deux fois en deux émissions que je dis titre éponyme. C'est inquiétant.
Passer le zénith, je suis un peu à l'ouest de l'Éden, et quitte que quitte, pour le temps qu'il me reste, je m'égrène. J'étais supposé rester quoi, aux appels de biches, aux abois, à leur joli corps d'olifante. J'étais censé rester de marbre, prendre racine au pied d'un arbre, sans jamais dévaler la pente. Que faire de ma peau, sinon la vendre au plus offrant à la demande. Et je m'en vais dans la mer zone, chercher un boulot à mi-temps, dresseur de fauves et d'amazones, et feuilleur de roses des vents, dealer de barils de poudre pour petites filles aux allumettes, me noyer dans un dé à coudre à la sauvette. Passer le zénith, je suis un peu à l'ouest de l'Éden, et quitte que quitte, pour le temps qu'il me reste, je m'égrène. J'étais censé rester stoïque, ne pas dériver de l'orbite, à peindre la queue des comètes. J'étais supposé à volo m'en tenir aux points cardinaux, ne pas jouer les girouettes. Que faire de ma peau, sinon la vendre au plus offrant à la demande. Et je m'en vais dans la mer zone, chercher un boulot à mi-temps, dresseur de fauves et d'amazones, et feuilleur de roses des vents. Un nouvel homme né sous X, sniffeur de lignes pour vol low cost, brasseur de cendres et de phénix et de low cost. Faire de ma peau, sinon la vendre au plus offrant à la demande. Et je m'en vais dans la mer zone, chercher un boulot à mi-temps, dresseur de fauves et d'amazones, et feuilleur de roses des vents, dealer de barils de poudre pour petites filles aux allumettes, me noyer dans un dé à coudre à la sauvette. Passer le zénith, dans la mer zone, chercher un boulot à mi-temps, je suis un peu à l'ouest, et feuilleur de roses et quitte que quitte, pour petites passer le zénith. Je suis un peu à l'ouest. Et quitte que quitte, pour le temps qui nous reste.
Pascal Rinaldi, vous savez que vous faites partie de ceux qui ont insufflé l'envie théâtrale, musicale, spectacle à Anne-Cécile Moser via le coup d'essai. Vous vous souvenez du coup d'essai?
Bien sûr, je me souviens, oui.
Vous y étiez tous les deux, enfin vous en faisiez partie.
Oui, 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 mais ce n'est pas moi qui ai insufflé ça.
Non, non.
Ah, c'est joli.
Ah oui, c'est joli pour la légende, c'est bien.
Pour la légende.
Passer le zénith, je suis un peu à l'ouest. Vous entendez chanter ça d'entrée, mm-hmm. et vous le chantez d'entrée dans l'album, c'est le premier titre. Mm-hmm. Pascal Rinaldi, c'est quoi le zénith dans votre esprit rêveur?
Vous le regardez
d'ailleurs sur la pochette.
Oui, mais c'était assez matériel, c'est en même temps assez prétentieux. En fait, je suis arrivé à 50 berges. Voilà, donc,
non, sans blague.
Ouais, c'est dingue. Hein.
Et le bouc a blanchi.
Et il avait blanchi déjà avant.
Ouais.
En imaginant que je puisse vivre centenaire, c'est le zénith.
Ah, vous êtes à la moitié. Ah, vous envisagez le...
Non, j'espère pas. Ou j'espère pas. C'est assez trouble d'ailleurs. Mais pour moi, c'était un peu ça, quoi. C'est-à-dire que
vous êtes au milieu de quelque chose.
Arrivé au milieu de quelque chose, je peux encore me permettre d'être.
Mais le zénith, c'est l'apogée aussi. Après, il ne peut y avoir que le déclin.
C'est ça. C'est délicat.
Non, ah bah, c'est vrai. Si on prend l'image comme vous l'avez, le soleil va descendre.
Mais
la lumière.
Mais je serai toujours un peu à l'ouest, c'est-à-dire un peu.
Un peu couché.
J'espère rester un peu déjanté quand même.
Ah, ouais. Alors, je disais, dans votre esprit rêveur, cet album est un curieux mélange de demandes d'amour et une demande très forte. La réponse fut-elle mensongère d'ailleurs, peu importe, et de demande aussi tout aussi forte de temps, comme si vous en aviez, mais alors l'explication du zénith l'éclaire,
ouais.
Comme si vous en aviez brutalement constaté l'écoulement un poil trop rapide.
Oui, bon, en même temps, j'ai toujours fait mon travail de chanteur, enfin ma carrière comme ça, sans réfléchir autant. Et puis, malgré tout, c'est vrai que j'ai toujours plus d'envie finalement de faire des choses. Et c'est vrai que c'est physique, mais c'est vrai, plus on avance en âge, c'est vrai que le temps est élastique. Hein, c'est-à-dire que quand on est petit...
Il est immense, le temps.
C'est immense.
Vous savez, moi j'ai une équation pour ça. Mais je vous la livre comme ça, je ne sais pas si elle vous servira.
Ouais.
Mais effectivement, quand on a 2 ans, par exemple, une journée, c'est 720. Une journée, c'est un 720e de sa vie.
Ouais.
Ce qui est quand même... voilà. Mais quand on a 30 ans... c'est une journée, c'est 1/3620 de sa vie. Donc c'est vachement plus court, c'est vachement moins.
Mm-hmm.
Alors je vous parle pas quand on en a 80.
Moi je suis pas bon en maths.
Et pourtant il semble qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là.
Mais effectivement c'est ça, c'est que le temps passe de plus en plus vite, soit parce qu'on a des projets qui s'échelonnent à plus long terme sur plusieurs années, ce qui fait que le temps passe vite à cause de ça. Je sais pas, ça a un côté un peu comme un effrayant, qui m'interpelle, et puis c'est vrai que j'en parle un peu dans ça. Et on espère pas être au bout des rencontres qu'on peut faire, et en même temps on a un choix de vie avec certaines ornières
qui se restreint.
Quoi donc qui se restreint?
Le choix de vie.
Non, il se restreint pas, mais on voit toutes ces belles passantes. Non, mais bien. J'imagine ça, quoi. Dire, on est sur une route qu'on essaie de tenir au mieux, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui fait mal, et c'est parce que ça fait mal que c'est beau.
Oui. Ouais. Dans ce temps écoulé, il y a des choses que vous regrettez n'avoir pas faites et que vous savez pertinemment, même si vous vous raccrochez à une quelconque illusion, que vous ne ferez jamais. C'est une sorte de tant pis, c'est trop tard.
C'est une question, savoir s'il y en a que je...
Ouais.
Ouais. Ben, par exemple, moi, enfin, j'étais très, très, très touché d'être au milieu de tous ces gens de théâtre, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, que je peux encore faire, évidemment, quoi. Mais j'aurais bien aimé être danseur aussi quand je vois des spectacles de danse. Mais j'ai pas le physique fait.
Je pense qu'il y a un physique de danseur.
Non, mais il y a une espèce
Vous qui travaillez dans la danse, Claude Reger, il n'y a pas de physique de danseur.
Non. Enfin, non.
Il y a une pratique, il y a une technique, mais il n'y a pas un physique.
Voilà. Mais physique, si vous y mettez maintenant tous les physiques,
Pascal Rinaldi.
Aujourd'hui, il n'est trop tard pour rien.
C'est vrai, avec
je
Internet.
Pense
pourquoi avec Internet?
C'est une connerie, non? C'est parce qu'aujourd'hui, tout est possible avec Internet.
Oui, tout est possible.
Non, mais. C'est vrai qu'il y a plein de domaines que j'aurais voulu
explorer,
vers lesquels j'aurais pu aller. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je me suis tenu à cette écriture de chansons et qui m'étouffe un peu, je dois dire un petit peu maintenant.
Vous en avez marre ?
Non, c'est-à-dire que je trouve que c'est un peu étroit, quoi, pour ce que j'ai envie de faire, enfin pour ce que j'ai envie d'exprimer. Et d'ailleurs, je vais me tourner un petit peu vers une écriture théâtrale pour un prochain spectacle.
C'est vrai ?
Ouais, pour 2013, hein, ouais.
Mais pour vous-même, c'est-à-dire vous écrire quelque chose.
J'en ferai partie, mais qui intégrerait... on sera plusieurs, quoi. En fait, je vais écrire un spectacle sur Lou, Andrea Salomé.
Ah oui,
voilà, ouais.
Et mais alors parce que je voyais le festival Rilke, etc. Donc oui. On est pas très très loin de cet univers-là. Donc Lou André Salomé, ça, non, Nietzsche.
Exactement. Et il y aura quatre personnages qui sont Nietzsche, Rilke et Freud.
Oui.
Et puis Lou, voilà.
Et donc du texte et des musiques
et des chansons aussi. Quand
et
même.
Des chansons.
Mais, par exemple, il y a 2 ans en arrière, j'avais fait un spectacle aussi qui se rapprochait de ça, autour des écrits de Corinne Aby.
Oui.
Qui s'appelait Le Salon Ovale, où j'avais écrit des chansons que ces nouvelles m'avaient inspirées, quoi. Mais c'était un spectacle que musical, mais avec mise en scène, scénographie et tout ça. C'est la première fois que je faisais un gros truc comme ça. Et puis, en fait, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu écris pas, je sais pas, enfin des romans, des choses comme ça. Et moi, j'ai un petit peu de peine à me projeter là-dedans parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis formaté pour écrire des chansons. J'ai toujours écrit quasiment que des chansons. Mais je sens cette impulsion, quoi, pour aller vers ça. C'est simplement que le format est différent et, j'emploie un peu cette image. Écrire une chanson, c'est ouvrir le robinet pour remplir une baignoire. Et puis, pour écrire un texte plus long, un roman, il faut remplir une piscine, au moins une piscine.
Ça prend juste un peu plus de temps, mais avec le même robinet, vous arrivez au même résultat.
Et avec le même matériau. Hein.
Oui. Dans cet album, il y a une figure tutélaire, c'est celle de Baudelaire. Très discrète parce qu'elle n'est pas dans le.
Dans l'image
oui, c'est à l'intérieur. Il y a Baudelaire, il y a 2 fois même, me semble-t-il.
Oui, effectivement, il y a une machine à écrire. C'était un peu le hasard parce que l'endroit où on a fait les photos, il y avait une machine à écrire. Ça, mais ça correspond à mes aspirations. Quoi.
Dans un album, il y a forcément une ou deux chansons qu'on préfère. Laquelle c'est la vôtre ?
La mienne.
Il se souvient plus déjà.
Ouais, non,
attendez,
je
me souviens de cet
album. Je me réécoute pas beaucoup. Donc finalement, je pense qu'il y en a deux que je préfère là-dedans. C'est Dinosaure.
Si vous vous posez la question, suis-je un dinosaure d'une certaine manière ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un dinosaure ?
Ah non, dinosaure, c'est sur les couples qui durent. Mmh. Les couples qui durent et j'en suis un.
Vous en êtes une moitié d'un.
Mais j'en suis une moitié d'un, ouais. Parce qu'avec mon épouse, effectivement, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 16 ans.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Claude Reger, ça vous fait rire ?
Oui, ça me fait rire.
C'est vrai ?
Pourquoi vous aussi ? Presque.
Depuis l'âge de 12 ans.
12 ans ?
12 ans ? Ah ouais ?
Ah, battu, Pascal Rinaldi, battu.
Battu.
Mieux que vous, 16 ans.
Et voilà. Puis c'est vrai que, à notre époque, on fait un peu figure de dinosaure, quoi.
Ben, parlez pour vous.
Non, mais franchement, autour de nous, les couples tombent au bout de...
Ah, de ce point de vue-là.
De ce point de vue-là, oui. quand on annonce ça.
Qu'on est marié depuis 40 ans, 30 ans, 35 ans.
Avec tous les plaisirs et les quelques difficultés à travers lesquelles on passe, mais c'est ça qui est beau. Donc ça, c'est une de mes chansons préférées. Ouais. Voilà. Et l'autre, c'est Une vie ne suffit pas, qui est finalement la réponse au dinosaure aussi. Quoi. C'est que...
ouais. Puis à ce qu'on disait tout à l'heure, toutes ces choses qu'on n'a pas faites.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et dont on sait qu'on ne les fera pas parce qu'une vie ne suffit pas.
Voilà.
Pascal Rinaldi, vous serez vendredi 27 à la salle de spectacle de Renan. Mm-hmm. 27 avril donc. Hein. Le 1er juin, on a le temps de voir venir au centre de la Meunière à Colombey-Murat. J'ai adoré cette date, j'ai trouvé ça le centre de la Meunière à Colombey-Murat, ça me plaisait bien.
Oui, ça c'est un petit aparté comme ça. Ouais.
Comme ça, pour le plaisir. Et puis les 17 et 18 août au festival Rilke à Sierre.
Ah juste, oui, c'est vrai. Ouais.
Ah ben je vous apprends quelque chose. Ouais, ouais, vous avez noté ça dans votre carnet?
Oui, j'ai noté ça quand même, mais je ne le consulte pas souvent.
Merci Pascal Rinaldi.
Merci.
Et puis merci à tous. Merci à Anne-Cécile Moser, à Claude Reger, à Guillaume Béguin et Sylvie Kléber qui sont en scène en ce moment même. Là, je pense que Franck a tué sa femme.
Oui, certainement.
Probablement, oui. Qu'elle est morte sous les coups de poing de son mari. Tout va bien. C'est la fin de cette émission préparée avec les collaborations de Stéphanie Gocci, de François Piton et de Kim Tanguay. Après les informations drôles d'histoire, des histoires choisies et racontées par Céline Auclin. Très belle soirée à tous, on se retrouve demain. Vous écoutez La Première, il est 21h.